Grand format,
emploi dur d'avoir un boulot.
Je suis Gilles Risser, j'ai fondé moviejob.com au mois de juin de l'année dernière. C'est un site qui a pour objet de promouvoir l'emploi et la mobilité des compétences sur la grande région. Donc c'est un site qui couvre à la fois l'Alsace et la Lorraine, mais aussi les extensions frontalières, suisse, allemande, belge, luxembourgeoise, de façon à ce que les habitants de la grande région, souvent bilingues, souvent d'une même culture, puissent effectivement, d'un côté ou de l'autre d'une frontière, trouver un job. Voilà, sur tous les jobs qui existent déjà. Moviejob a un an, ça fait... On a déjà atteint près de 6500 offres d'emploi diffusées sur notre site, dans tous les secteurs d'activité, où on connaît à la fois des pénuries, à la fois des métiers en tension. On couvre aussi bien l'informatique que la finance, qui continue à recruter néanmoins la grande distribution, le commerce, la comptabilité, enfin tous les secteurs, et surtout tous les candidats. Du CAP au Bac plus 5, on est un site généraliste, on n'est pas spécialisé cadre, on n'est pas spécialisé technicien, on est spécialisé grande région. J'ai senti un marché en fait, puisque j'ai passé près de 7 ans à servir la presse quotidienne régionale dans l'Est de la France, donc les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, républicain lorrain, sur le marché des offres d'emploi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'annonceurs ou de recruteurs frontaliers qui annonçaient dans ces supports, mais qu'il n'existait pas un site unique, une plateforme unique qui propose de l'emploi sur cette grande région. Donc l'idée est venue assez naturellement en fait. Moviejob est donc le seul site de sa catégorie à couvrir cette zone-là, de façon à faire trouver du boulot à beaucoup de personnes.
Oui, donc nous on est basé sur Luxembourg, on a une usine de production au Luxembourg, production de pneus, et un centre de recherche et de développement.
Donc c'est que sur le Luxembourg.
C'est que sur le Luxembourg.
Alors c'est pas la peine, merci quand même.
Toute notre démarche ne s'adresse pas seulement aux demandeurs d'emploi, bon c'est vrai qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont des formations qui sont un petit peu en décalage par rapport à la réalité et aux besoins des entreprises, faut le dire clairement. Néanmoins, les demandeurs d'emploi sont une partie de notre clientèle, on va dire ça comme ça, sachant qu'on s'adresse aussi à tous les gens qui sont en poste, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer de carrière, qui ont envie de progresser, qui ont envie de... soit changer d'orientation, soit effectivement de passer du crédit agricole à la caisse d'épargne, tout ça dans des évolutions de carrière. Donc le demandeur d'emploi, non, il n'y a pas une photographie exacte, néanmoins, il y a un déficit linguistique lourd, il faut le dire clairement aussi, du côté de la France, qui reste, les candidats resteront franco-français. Hein.
Alors il semblerait, franchement, que effectivement au niveau français, il semblerait qu'il y ait un problème, quoi. Alors, d'où ça remonte? Est-ce que c'est les jeunes qui ne sont pas très branchés pour faire des langues, etc.? C'est peut-être un peu vrai, mais est-ce que c'est pas un problème aussi un peu d'éducation nationale, tout simplement, qui pousse pas à ce genre de choses? Moi, récemment, j'ai encore vu une inspectrice d'académie qui me disait « Moi, on est prêt à ouvrir un cours de langue éventuellement, si ça vous intéresse ». Je suis pas sûr que ce soit la bonne réponse, quoi. À un moment donné, il faut peut-être, dans l'intérêt parfois, passer sur un certain nombre d'appréhensions et mettre en place, effectivement, ces cours, plutôt que de dire, si ça vous intéresse, quoi. On sent bien que personne n'est, il faut faire des langues parce qu'on est un peu obligé. Mais c'est indispensable de nos jours, c'est indispensable, ça devrait être... c'est comme, je ne veux pas dire exagéré, mais comme les mathématiques, je veux dire, c'est quelque chose de très important dans ce milieu européen aujourd'hui pour des jeunes, quoi.
C'est une évidence. Ceci étant, maintenant, les candidats d'Alsace et de Lorraine sont souvent bilingues, allemands. Et c'est ça aussi qui intéresse bah, la Suisse, l'Allemagne, Belgique, Luxembourg. Voilà, l'allemand, c'est un peu le dénominateur commun sur cette grande région. Même si les nouvelles générations maintenant sont quand même bien meilleures en anglais que leurs aînés. Mais il y a encore de très gros efforts à faire, même du côté de l'éducation nationale, hein, puisqu'on parle évidemment à beaucoup de recruteurs étrangers qui nous disent, voilà, les Français font 12-15 ans d'anglais durant de quasiment la primaire jusqu'à la fac ou en école, et au final, ils ont vraiment du mal à s'exprimer en anglais. Parce que l'écrit, ça va. Il y a une culture aussi, je pense, littéraire en France qui fait qu'on s'exprime peut-être plus facilement par écrit. Mais il y a un blocage, parce que le vocabulaire, il est là, la grammaire, elle est là. Mais je crois qu'il y a surtout un complexe. Il y a un complexe français par rapport à l'anglais qu'il faut résoudre. Et que j'espère que l'éducation nationale est en train de résoudre avec certainement des cours un peu plus vivants, un peu moins doctoraux. Donc voilà... Et inversement, les compétences françaises sont hyper recherchées. Que ce soit dans l'ingénierie, dans l'industrie, dans l'informatique, dans le management d'une manière générale, mais aussi au niveau des techniciens, les compétences françaises sont recherchées. Donc c'est vraiment dommage que les Français se coupent de beaucoup d'opportunités de carrière simplement à cause de cette barrière des langues, en effet.
Je m'appelle Laurent Génie, j'ai 25 ans. Je viens de finir la formation MIM au pôle CCI, donc ce qui me donne un master 1 en gestion d'entreprise et management de projet. Je recherche particulièrement un emploi dans la grande distribution, donc tout ce qui est chef de réseau, directeur de magasin. Voilà, je suis sur le salon Movie Job, ça me donne l'opportunité en fait de découvrir un petit peu les entreprises recruteuses d'Alsace. Je viens justement de l'entretien avec le groupe Attac. Donc là, j'ai postulé pour un poste de directeur de magasin. Apparemment, ça s'est très bien passé. Donc écoutez, j'ai un rendez-vous là donc pour fin mois d'octobre. Donc j'espère que ça va payer, tout simplement. Écoutez, sur les salons, je dirais en règle générale, l'ambiance est très décontractée. Voilà. C'est plus, je dirais, un premier lien, un premier prise de contact avec les jeunes. Donc ce qui est pas mal, ça permet peut-être de développer des attaches en fait, qu'on n'aurait peut-être pas développé via un site internet ou via je dirais un mailing classique de demande d'emploi. Voilà, donc c'est très positif.
Il est vrai que les salons ne sont pas, a priori de ce que j'ai pu voir, un élément absolument débordant de réussite. Très souvent quand même, les gens sont assez souvent déçus par ce type de salon, quoi. Ça a le mérite d'exister. C'est évident que dans les problèmes d'emploi, dans l'état des choses, il vaut mieux diversifier le maximum de communication, quoi. L'expérience que j'en ai, c'est par effectivement les échos qu'on peut en avoir des jeunes qui ont été, ou alors même des employeurs qui ont été. C'est salon, quoi. C'est salon et c'est plus exposition que vraiment des relations directes avec des résultats directs. Participer à un salon, comme vous le savez, il y a deux choses possibles, soit de la vente, de marchandises, etc., mais c'est aussi de l'image de marque. Et c'est vrai que participer à un salon, ça fait partie aussi de l'image de marque d'une société si elle veut être présente sur la place, présente auprès des différents acteurs, quoi. Le bon vieux CV qui arrive bien dirigé, bien rédigé, si possible un peu avec une petite préparation au préalable, c'est-à-dire au moins connaître le nom peut-être du responsable des ressources humaines, par exemple, des choses comme ça, est certainement tout aussi efficace.
J'ai 23 ans. Je suis actuellement en Master 1 gestion d'entreprise en partenariat avec le pôle CCI à Strasbourg. Je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettra donc de faire ce contrat de professionnalisation en alternance avec les études que je poursuis aujourd'hui. C'est très dur. Surtout, pour trouver de l'alternance, c'est pas facile parce qu'en fait, on n'est pas disponible pour l'entreprise à temps complet. Donc, déjà pour trouver du travail, c'est pas très facile en ce moment. Grâce à ces forums-là, donc on a l'opportunité aussi d'avoir un contact visuel et direct avec les gens. Et pour ma recherche personnelle, contrat de pro, donc c'est vrai que je suis disponible seulement 2 jours et demi. Dans la semaine, c'est vrai que ça correspond pas à tout le monde. Faut vraiment une immersion, une insertion directe et entière dans l'entreprise et il n'y a pas tout le monde qui accepte ça, quoi.
Le salon, en fait, généralement, les exposants sont très décontractés et demandent qu'à rencontrer des gens, tout simplement. Et puis, je pense que ça se fait aussi beaucoup au feeling.
C'est vrai qu'on vient dans la tête avec des buts bien précis. Après, on découvre un petit peu que les entreprises, ben, il y a un peu de tout. Et à partir de là, on essaye de voir s'il y a possibilité de s'arranger aussi avec, avec les entreprises qui proposent. Et, voilà.
Les allées sont faites, on va dire, par pertinence. Donc là, en face de nous, on a l'allée informatique. Hein. On voit Silly, Sopra, Sogeti, Accenture, Capgemini, qui sont des... qui à E5 recrutent plus de 2 ou 3 000 personnes à l'heure d'aujourd'hui. Hein.
Sogeti est un groupe qui est déployé à l'international. Aujourd'hui, Sogeti fait partie du groupement d'entreprises que vous connaissez peut-être, qui est Capgemini, le groupement d'entreprises. Nous sommes placés sur un segment d'activité qui est la prestation de services en informatique. Notre métier, qu'est-ce que c'est ? C'est d'accompagner des entreprises. Notre positionnement, c'est du grand compte. Typiquement, nos clients vont être France Télécom, Alcatel, Peugeot, Renault, PSA, Airbus. Bon, la liste est loin d'être exhaustive, ça va de soi. Et on va les accompagner dans l'élaboration, l'innovation, la montée en performance et la mise en place. Surtout dans la mise en place, notamment la réalisation technique de leur infrastructure, de leur logiciel de gestion en fait. Donc on travaille vraiment sur l'infrastructure informatique des entreprises. Et par rapport à ça, dans notre démarche de détection de besoins ou d'incitation aux besoins, on va dire, on va avoir nous, nos salariés qui portent la compétence technique, ce qu'on travaille avec leur matière grise et c'est ce que nous allons promouvoir. On va positionner nos salariés, qui restent nos salariés, on ne fait pas d'intérimaire, sur ces comptes clients pour les accompagner en fait dans la mise en place des systèmes informatiques. Nos salariés ont des niveaux d'expertise assez importantes sur différents métiers. Alors, vous avez trois grands métiers, en fait, au niveau de Sogeti. Vous avez une partie qui s'appelle l'exploitation d'infrastructures. On est sur véritablement l'élaboration jusqu'à l'implémentation de l'infrastructure et l'exploitation après de l'infrastructure. Le deuxième métier, c'est de la conception, du développement d'applicatifs. Là, on parle de logiciels de gestion. On a un troisième métier qui est la recherche et le développement. On est là plutôt orienté sur l'informatique industrielle, en fait. La mise en place de systèmes embarqués, d'automatisation. Bah, typiquement, vous avez une voiture. À l'intérieur de votre voiture, vous avez les commandes volants. Bah, là-dedans, il y a du système automatisé, par exemple. Voilà, un exemple concret. Et nos collaborateurs sont des experts. Ce sont à minima des ingénieurs systèmes, réseaux, des chefs de projet, des consultants, des architectes. Il y a des développeurs, des analystes programmeurs. En fait, tous les métiers de l'informatique qui, à un moment donné, vont être positionnés chez nos clients pour les aider à résoudre leurs problématiques liées à l'informatique. Il y a eu deux périodes, là, je pense, ces 10 dernières années, où effectivement, il y a eu peut-être en 2001 une difficulté à retrouver des profils informatiques parce que le marché était vraiment en forte demande. Donc, bah, toutes les SS2I, toutes les entreprises se battaient pour avoir leur bon profil. Et je pense que là, on vient de passer deux années similaires où on a eu affaire à un marché très tendu, à des candidats ou à des gens en poste hein, qui souhaitaient se mettre en visibilité parce qu'ils savaient que le marché leur était complètement favorable. Et de fait, nous, recruteurs, un petit peu moins à l'aise dans la démarche parce que devant nous, bah, des personnes qui savaient que c'était le moment de négocier des salaires plus importants peut-être que d'habitude. Donc là, aujourd'hui, on sent bien effectivement que sur ces deux dernières années, il y a eu de nouveau cette tendance où le candidat savait très bien que c'était le moment pour lui de jouer ses bonnes cartes. Ce qu'on envisage peut-être sur à partir de 2009, c'est une période peut-être un petit peu différente, où on n'est pas certain que les gens en poste seront toujours aussi sûrs de pouvoir se repositionner avec la même facilité. Mais ça, encore une fois, c'est plus de l'empirique qu'une certitude. Je comprends l'enjeu et la pression que peut avoir la personne. Mais une des démarches que nous avons, ma collègue et moi-même, dès qu'on commence un entretien, c'est de bien dire à la personne et d'essayer de lui montrer qu'on est une personne comme elle. Et qu'on a un enjeu, nous, dans cet entretien, c'est aussi de la convaincre qu'on est intéressant pour elle.
En fait, c'est la manière dont on recrute, c'est effectivement faire plusieurs entretiens avec différentes personnes sur différents points de vue. Vraiment, donc, au niveau de Sogeti, on a un entretien RH, donc donc avec nous-mêmes, chargé de recrutement. On va voir effectivement plus l'adéquation du sens du service, voir un petit peu si nous, ce que nous proposons correspond aussi aux attentes de la personne. Justement, c'est effectivement un point très important, c'est ça, parce que peut aussi ne pas correspondre aux attentes de la personne. Ensuite, il y a un entretien avec un responsable technique qui va valider plus un plan effectivement technique, forcément des choses, mais aussi un deuxième point de vue sur la motivation, sur l'appareil, l'adéquation, les motivations de la personne, l'adéquation de ce qu'on peut proposer à la personne. Et c'est justement du fait qu'on a plusieurs entretiens, on peut un petit peu, on va dire, viabiliser le recrutement. Après, il peut y avoir encore un troisième entretien avec une autre personne, peut-être dans un autre domaine, avec le directeur d'agence aussi, pour finaliser un petit peu les choses. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est sûr, comme disait Madame Ritondo tout à l'heure, le recrutement, la RH, c'est une science molle. Pour ma part, parce qu'après ça dépend des recruteurs forcément. Pour ma part, c'est laisser la personne être bien et parler. Vraiment ne pas la bloquer avec des questions pièges ou quoi. C'est pas le but. Hein. C'est qu'en un laps de temps, la personne puisse s'exprimer véritablement et comme ça nous dire ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle est, pour voir un petit peu ce qu'on peut lui proposer. Ça, c'est ma méthode. Il y en a qui sont dans d'autres courants. On m'a dit des fois aussi que j'étais trop gentille, aussi en entretien. Mais pour moi, c'est véritablement quelque chose de très important que la personne se sente bien en entretien et qu'elle puisse vraiment se révéler à ce moment-là, dans ce laps de temps de une heure et demie, auquel on parle, on discute. Voilà.
Alors, je suis pas sûr. Vous savez, bon, c'est naturel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel nombre de demandes que forcément, ça passe par un certain nombre de filtres, quoi. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de plus en plus compliqué à recruter, quoi. Donc, il faut un peu spécialiser. Il faut, si effectivement on sait déjà bien rédiger son CV, si on a déjà un petit peu d'expérience, si on sait le mettre en valeur, si on est un petit peu dynamique, on accroche. Et je suis persuadé qu'un employeur peut accrocher aussi, quoi. Moi, j'ai beaucoup de relations avec des gens qui font des ressources humaines. Non, ils font leur travail. Évidemment, ressources humaines, ça veut dire individualisme quand même, parce que chaque employeur, donc chaque DRH ou recruteur est particulier. Il a son approche, il a sa philosophie, etc. Mais c'est la même chose pour les salariés, quoi. Ils ont chacun leur caractère, heureusement, d'ailleurs, c'est humain, quoi. C'est un mal nécessaire, enfin, c'est indispensable pour l'employeur, et puis pour celui qui va se faire recruter, c'est évidemment indispensable. On ne peut pas faire autrement, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, de nos jours, il faut faire très attention dans l'emploi. Il faut quelqu'un qui est formé, qui a une expérience. On ne peut plus laisser aller dans la nature quelqu'un qu'on vient de recruter, quoi.
C'est de la banque de détail. Il y a des fonds européens de financiers qui sont là, il y a de l'audit, il y a de l'assurance, il y a de l'industrie, de l'informatique, hein, faut le savoir. On a en face l'allée banque finance, assurance avec Crédit Agricole, AGF, ESCA, Caisse d'épargne qui sont présents. AXA également. On a un peu plus loin la dimension plutôt industrie avec Axima Suez, Veolia, qui recrute énormément. Hein. Ça va des tuyauteurs aux conducteurs d'engins, en passant par des responsables de maintenance, des chauffagistes, des climats, enfin des gens qui s'occupent de la clim. L'intérim est là, parce que l'intérim. D'ailleurs, je ne devrais pas dire l'intérim, hein. Ce sont des entreprises, Manpower, Adeco, Star People, qui de plus en plus proposent des CDI. Hein. Depuis la déréglementation et l'ouverture à la société privée de placer, outre la NPE, de placer des gens en CDI ou en CDD dans les entreprises, ces entreprises-là, Adeco, Manpower et compagnie, ont fait de gros efforts en matière de sourcing, en matière de politique, en matière de communication, pour évidemment continuer à traiter les intérimaires, parce que l'intérim, c'est pas seulement une solution par défaut. Il y a des gens qui choisissent clairement travailler dans l'intérim, qui vivent très bien et à qui ce mode de travail flexible convient. Et puis, allons voir Adecco ou les autres, ils proposent énormément de CDI également. Comme les cabinets de recrutement qui sont là aussi, cabinet Hayes, cabinet Blic Actimum, cabinet Accoré Consulting du Luxembourg, vous voyez les gens qui attendent devant. Tous les secteurs globalement sont plus ou moins représentés, les secteurs marchands en tout cas. Sans oublier bien entendu nos amis du public, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, la police nationale qui sont présents. Et qui recrute énormément aussi.
Je suis le major Guy Berthaud, je suis le chef du centre d'information et de recrutement de la gendarmerie pour l'Alsace. Donc la gendarmerie au niveau national propose environ 10 000 emplois par an, 6 000 gendarmes adjoints, 2 500 sous-officiers de gendarmerie, des sous-officiers du corps de soutien administratif et technique de la gendarmerie et des officiers. En ce qui concerne le recrutement des gendarmes adjoints, c'est de 18 à 26 ans, sans condition de diplôme, il y a juste des tests de sélection à passer. Ça débouche sur une formation en école de 3 mois et les jeunes sont affectés ensuite dans une unité de gendarmerie où ils participent au service normal de la gendarmerie, à savoir qu'il s'agisse d'enquêtes, d'accidents. Donc ils sont en quelque sorte des assistants des sous-officiers de gendarmerie. En ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie, actuellement nous n'avons toujours pas de conditions de diplôme pour intégrer les sous-officiers. Ce sont des tests également. Là, il y a 2 jours de tests qui comprennent également une épreuve sportive, une épreuve physique assez difficile, toute une batterie de tests psychologiques et psychotechniques, ainsi qu'un entretien et des tests portant essentiellement sur du français. Le français est capital pour nous, puisque tout ce que nous faisons, voyons et entendons, on le transcrit sur des procès-verbaux, donc on souhaite conserver une bonne qualité d'écrit. C'est un métier qui est passionnant, qui est très motivant, je veux dire, même si au départ on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, on découvre vite quelque chose qui est vraiment excessivement motivant. Ça bouge beaucoup, donc ça peut passionner les gens qui sont actifs, que ce soit en gendarmerie départementale ou en gendarmerie mobile, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mouvements. La troisième étape importante également, c'est le corps de soutien administratif et technique de la gendarmerie. Là, on est dans quelque chose qui n'est pas opérationnel, ce sera uniquement de l'administratif, comme son nom l'indique. Dans ce domaine, on va recruter essentiellement des gens chargés de secrétariat, en gestion du personnel, secrétariat logistique et financière, ainsi également des gens qui sont dans le domaine de la restauration collective, des affaires immobilières, des armuriers, des imprimeurs, des mécaniciens, donc tous ces gens qui vont assurer le fonctionnement de l'institution de la gendarmerie. Au-dessus de tout ça, nous avons donc les gens, les officiers de la gendarmerie, qui sont des gens qui sont chargés du commandement, de la gestion, de la conception du service de la gendarmerie. Ça se pratique directement, l'accès se fait directement à partir d'un bac plus 4 sur un concours qui comprend une partie écrite, une partie orale avec des tests physiques. Ça débouche sur une formation de 2 ans à l'école des officiers de la gendarmerie. Et donc les gens choisissent ensuite leur affectation en fonction du rang de classement, comme dans toutes les autres formations, avec là des dominantes de carrière qui seront amenées à revenir de manière récurrente au cours de la carrière des officiers.
Troisième
mercredi de chaque mois.
Donc
à la permanence du centre d'information et d'orientation de Mulhouse. D'accord ? Ok. Vous voyez la tour Europe ?
Oui, bien sûr, oui.
Juste à côté.
Juste à côté.
À côté, il y a un lycée et vous avez le CIO qui est à l'intérieur du lycée. Place Santiago, je ne sais plus le nom. Vous êtes à 500 ou 600 mètres de la tour de l'Europe. Je vous le dirai tout ça.
C'est la prochaine, de toute manière.
Tout à fait. Ouais. Et si c'est pas moi, ça sera un autre camarade. D'accord, hein. Et je vous appellerai pour vous donner l'adresse exacte.
Ok, c'est gentil.
On fait comme
bien.
Ça. À partir de lundi, je vous appelle.
D'accord.
Voilà.
Ça fait déjà un petit moment. J'ai déjà de la famille qui a déjà passé des concours à la gendarmerie. Là, j'ai encore ma sœur qui est en école de gendarmerie qui va terminer le 23 octobre. Et. Bon, pour un autre concours qu'elle avait passé à la gendarmerie, et c'est vrai que bon, les perspectives d'emploi par la suite sont plutôt intéressantes. Enfin, j'aimerais bien avoir un travail où je puisse bouger. J'aime pas être confinée dans un bureau en sachant très bien qu'on peut très bien avoir des tâches administratives à faire aussi, mais j'aime bien avoir travaillé de nuit ou de week-end. Ça... Enfin, pas toujours avoir des horaires fixes. Je m'étais déjà renseignée. Bon, ils m'ont dit qu'ils étaient présents ici aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me suis déplacée. Je suis pas allée voir une autre entreprise ou un autre ministère. J'ai eu mon DUT au mois de juin et là je suis à la recherche. J'ai déjà passé des concours, des ministères et de la finance et dernièrement aussi à la SNCF. Ça n'a rien à voir, mais bon, je m'étais déjà inscrite assez longtemps et donc j'ai quand même passé ce concours. Ça nous met quand même dans des conditions un peu réelles pour passer des épreuves, tout ça. Ça fait longtemps que je cherche, parce que j'ai envie vraiment de faire et tout. Et là, ouais, mon choix s'est bien arrêté ouais, pour la gendarmerie.
C'est une prise de contact, c'est des rendez-vous qui ont déjà été pris pour la semaine prochaine, parce qu'il faut souvent aller vite hein, sur les profils qui sont trouvés. L'idée, effectivement, c'est que les candidats aient une rencontre physique avec les recruteurs. Hein, on dépasse la notion de pur CV écrit. Pour voir le savoir-être, aller un peu plus loin dans la description en direct live du CV. Il y a des entretiens qui durent. Hein. J'ai vu des recruteurs ce matin passer presque une heure avec les gens, donc on rentre vraiment dans le détail. Les rendez-vous sont pris pour la semaine prochaine. Pour bon nombre de recruteurs nous ont dit, voilà, on a trouvé quelques profils. Si c'est OK, ça marche. Dans deux semaines, ils font partie de nos effectifs. Donc c'est du direct, c'est de l'effectif, c'est du concret, à la fois pour les recruteurs, à la fois pour les candidats. Et puis ça permet aussi aux candidats de se faire une idée un peu plus précise sur leur parcours, sur leurs aspirations, sur leurs envies, sur leur connaissance des entreprises. Parce que les entreprises sont aussi là pour communiquer sur elles, sur leur politique de ressources humaines, sur leur politique salariale, leur politique de formation. Tout ça, ça ne peut pas se faire par l'intermédiaire d'un CV. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir proposer aux uns et aux autres cette rencontre. Il y a clairement des sociétés alsaciennes et lorraines qui sont là pour recruter en Alsace-Lorraine. Et il y a des entreprises luxembourgeoises, belges, transnationales. Hein, vous voyez, Goodyear, AXA sont des groupes européens qui recrutent un peu partout. Mais effectivement, c'est souvent les divisions d'un pays ou d'un autre qui sont là pour essayer précisément de capter ce flux de personnes disponibles. Pour pouvoir à la fois les faire travailler aussi bien en Luxembourg qu'en France.
Nous sommes nés du rapprochement entre Crédit Agricole et Natixis, donc KCIS Investor Services. On est venu représenter l'entité de Luxembourg ici. On est assez peu connu du grand public parce que nos clients, ce sont des institutionnels, des banques et autres fonds d'investissement. Donc on est venu recruter des personnes puisqu'on recherche donc sur des postes au Luxembourg. Des gens qui soient prêts à venir travailler au Luxembourg, qui aient envie d'apprendre, alors soit qui ont une formation plutôt comptabilité, gestion, finance, ou alors des gens qui au moins parlent le français, l'anglais, si possible une autre langue étrangère, même s'ils n'ont pas a priori de connaissances dans le secteur financier. Après, on est prêt à les former sur nos métiers, sur le terrain, au jour le jour. Disons que la première question, c'est plutôt qui êtes-vous ? On ne connaît pas votre nom, présentez-vous. Donc ça, c'est notre première démarche aujourd'hui. Déjà on se présente, donc on est une banque, on est venu recruter pour le Luxembourg, donc beaucoup de questions aussi sur le Luxembourg et puis effectivement sur l'actualité financière. Maintenant notre réponse c'est aujourd'hui on attend, on n'a pas assez de recul par rapport à la crise aujourd'hui pour savoir de quelle manière, en tout cas on n'est pas impacté directement, peut-être nos clients, mais ça on est dans l'expectative aujourd'hui. Mais en fait, on a plusieurs postes en cours, plutôt du côté Fastnet. En fait, Fastnet recrute entre 100 et 200 personnes par an. Donc, des jeunes diplômés ou éventuellement des personnes expérimentées avec une première expérience, mais des compétences linguistiques. Mais oui, on continue à recruter à l'heure actuelle. Même si on est une banque française où la langue de travail, c'est le français, ben, travailler avec des gens au moins de l'Union européenne, l'aspect finance aussi, pour ceux qui ont un intérêt pour ce secteur, ça permet de découvrir surtout chez nous l'envers du décor de la finance. Pas les métiers trader et autres, mais vraiment derrière le trader, qu'est-ce qui se passe et faire le lien entre l'investisseur initial et puis tous ces mouvements de bourse. On a bien une activité d'administration de fonds pour la filiale Fastnet en tout cas. Donc ça veut dire qu'on calcule par exemple la valeur des fonds d'investissement et on tient à jour le registre des investisseurs, donc vous, moi ou d'autres grosses banques qui au final investissent dans ces fonds d'investissement.
Les promotions de jeunes diplômés 2007 et 2008 n'ont jamais été aussi bien placées que leurs aînés. Il y a près de 80% des promotions qui sont sorties en 2007 et en 2008 qui ont été placées en dessous de 3 mois, ce qui est un record. Les jeunes qu'on peut trouver ici, bon, ce sont les jeunes diplômés effectivement, hein, qui ont été diplômés en juin, juillet. Avec les vacances, etc., il y en a qui prennent un peu plus leur temps que d'autres pour trouver un job. Maintenant, il y a beaucoup d'autres jeunes. Là, je ne parle pas forcément des jeunes diplômés. Donc ces jeunes-là, il y a une partie de la population, notamment en France, hein, sur ces 18-25 ans, qui a clairement des problèmes, parce que les entreprises attendent maintenant au-delà de leur formation, des compétences. Mais il y a aussi des moins jeunes, hein, il y a des quadras qui sont là, il y a l'association Quinca 67 qui est là, qui promeut l'emploi des quincas et au-delà.
Ben, mon nom est Bernard Huc, je suis vice-président de Quinca 67. Quinca 67 est une association dont les adhérents sont des quincas, à partir de 45 ans à peu près, qui sont en recherche d'emploi. Et donc on fait le nécessaire pour que ces gens restent et l'énergie suffisante, ils ont la volonté de rechercher un emploi. On leur fait faire le deuil de leur ancien emploi, on fait en sorte qu'ils soient de nouveau apte à retrouver un nouvel emploi par différentes formes d'ateliers, par des libres conversations, de façon à ce qu'ils soient en état de rechercher un nouvel emploi et qu'ils ne soient pas seuls pour le faire. Mais le problème, c'est que les recruteurs ou même certaines entreprises considèrent que les gens de 45 ans sont trop âgés, pas assez souples, trop chers. Tout ça, c'est faux. Je dirais, on nous qualifie de trop chers en n'ayant même pas demandé ce qu'on voulait. On a une expérience, on est immédiatement opérationnel. Je dirais, c'est tout ce que les entreprises cherchent. Mais par contre, ils ne prennent pas le risque de prendre un quinca parce que ça pourrait créer un problème, pas une vente d'une population plus jeune, etc. C'est quelque chose qui ne se justifie pas et pourtant existe. J'ai fait tout mon parcours dans l'industrie et donc mon dernier poste, j'étais pendant 9 ans responsable d'une filiale d'un groupe allemand en France sur 2 sites, Strasbourg et Paris. Et donc un jour, il a été décidé qu'un responsable de filiale ne pouvait être qu'un Allemand, ce que manifestement je n'étais pas, et donc je me suis retrouvé dehors. Ça s'est passé en 2006. Entre-temps, j'ai essayé d'autres métiers, un autre métier mais qui malheureusement est sinistré pour le moment, c'est la gestion de patrimoine, la défiscalisation, donc c'est vraiment pas la bonne période. Et donc, depuis septembre, je suis de nouveau, effectivement, à la recherche d'un emploi.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est la rareté de l'emploi. Bon, ça, on peut dire ce qu'on veut, il y a une rareté d'emploi. Donc, forcément, il y en a ceux qui sont sur le carreau. Ensuite, il faut savoir aussi que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais des conventions collectives, très souvent, vous savez qu'il y a les glissements vieillesse, etc. Vous avez 1% par an d'ancienneté, etc. Et parfois, d'employeur à employeur, une transposition de cette ancienneté. Donc il est vrai que transporter quelqu'un qui a une certaine expérience avec un certain âge, avec tout le poids de la convention collective, etc., c'est parfois lourd pour un employeur. Et ça peut-être le faire reculer. Et ça peut aller jusqu'à 20% de différence, voire parfois 30% de différence. À un moment donné, c'est vrai qu'arrivé 50 ans, il fallait absolument Il fallait absolument se libérer des quinquas, etc. Je crois qu'on y revient quand même. Il y a quand même une tendance en ce moment à se dire que les gens d'expérience, on en a besoin parce que finalement, ils ne coûtent pas si cher que ça, parce qu'ils sont productifs tout de suite, ils ont une expérience, ils peuvent éviter des erreurs, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression quand même qu'on revient un petit peu en arrière en se disant que le diplôme chez un jeune, c'est une chose, mais l'expérience chez un ancien, c'est quand même quelque chose de... Donc ça, c'est un peu la vision un peu d'employeur que je vois, quoi. Le système conventionnel, à l'époque, quand il a été construit, on disait, bon, ben, les anciens, ils ont besoin d'avoir des primes d'ancienneté, etc. Et le problème, c'est que ça devient un emploi beaucoup plus cher, quoi. Et c'est vrai que certains employeurs se disent... je préfère un jeune parce qu'il est au début de l'échelle plutôt qu'un ancien qui est en fin d'échelle et qui coûte 30% plus cher, quoi. Ça, c'est quand même un point dans un certain nombre de domaines. C'est pas le cas partout. Mais si on parle par exemple du sanitaire, c'est certainement vrai. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour essayer de redonner... De toute façon, c'est dans l'air du temps, hein. Il faudra bien effectivement qu'il y ait quelque chose de fait. Parce que vous voyez bien, l'âge de la retraite étant repoussé, etc. Il faut vraiment trouver des solutions, quoi.
Non, moi je suis pas ingénieur, hein. Moi, j'étais plutôt magasinier vendeur dans le temps. Et là, je suis en train de faire une formation justement en technique de vente assistant commercial. Quoi. Je pense que vous avez peut-être déjà reçu même des offres. Hein, j'en sais.
Donc nous, hein,
pour... Mais voilà, moi c'est plutôt pour travailler ou assistant commercial, mm-hmm. ou alors vendeur, hein, dans un comptoir ou dans le pneu. J'ai une petite expérience. Quoi. Je connais bien les pneus. Quoi. J'avais déjà vendu des pneus. Quoi. C'est pour ça que je suis sur le côté.
À la NPE, je dirais, on s'occupe de nous très gentiment, à la PEC aussi, mais je dirais on encombre un peu les statistiques et pourtant il n'y a quasiment pas de demande pour nous. C'est malheureux à dire, mais je dirais la tranche 26-39, c'est la tranche idéale. Nous, on sort du cadre et donc on passe à travers le cadre. Il y a réellement un problème et le problème, c'est que quelles que soient les enquêtes qui sont faites, je dirais, il n'y a pas d'explication, c'est un état de fait. On pourrait presque dire, ce qui est d'ailleurs complètement faux, que l'âge est un handicap, mais ce n'est pas un handicap. Le problème du recruteur, c'est que par rapport au cahier des charges qu'il reçoit, il est obligé de se placer au mieux. Parce que premièrement, il assume une responsabilité, il faut qu'il fasse son travail correctement et il assume une garantie. Parce que si la personne ne reste pas en poste dans l'année qui suit, il faut qu'elle retrouve gratuitement un nouveau candidat. Donc, il faut déjà une fois rassurer le recruteur et un quinquas, manifestement, ne rassure pas les recruteurs. Mais les recruteurs ne nous disent rien parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Mais je dirais, on ne donne pas suite, on ne répond même pas. Je dirais, aujourd'hui, quand on envoie un CV, quand on répond à une offre, qu'on relance même, je dirais, on a une réponse évasive ou pas de réponse du tout. Je dirais, on ne rentre pas dans le schéma actuel. On n'est pas des gens qui répondons à une demande. On est un produit un peu obsolète, alors que c'est tout à fait le contraire.
Les plus anciens ont évidemment... au-delà du diplôme qui est souvent très loin derrière, qui est plus important. Je veux dire, à partir du moment où on a 40 ou 50 ans, clairement, le diplôme devient accessoire. Bon, c'est clair que si on a fait HEC ou une grande école ou une bonne formation, ça rentre en ligne de compte. Évidemment, puisqu'elle conditionne tout le parcours qui suit. Mais là, pour les gens qui sont dans cette tranche d'âge-là, leur puissance, leur force, c'est leur historique, c'est leur parcours professionnel, ce sont les compétences qu'ils ont pu acquérir au fil des années, c'est leur connaissance du marché économique, ils ont vécu des crises, ils ont vécu des années d'euphorie, ils connaissent les entreprises, ils connaissent le fonctionnement, donc il y a tout ça qui peut intéresser les recruteurs et qui... on a vu, hein, les recruteurs, souvent qui sont traités un peu de chantres du jeunisme, prendre du temps et se rendre compte que ces compétences sont vitales. De plus en plus d'entreprises mettent en place des parrainages avec des seniors et des jeunes diplômés de façon à créer un pont intergénérationnel.
C'est pas la même approche, quoi. C'est d'un côté, c'est l'expérience, c'est l'ancienneté. C'est, je dirais, un peu... vraiment c'est l'expérience quoi. D'un autre côté, c'est effectivement trouver un emploi au démarrage, ça veut dire toute la problématique, l'interrogation sur la formation. La formation, est-ce que le jeune qu'on va embaucher, il a la formation? Dans l'état actuel des choses, même s'il a le diplôme, je vous garantis que l'employeur, il est absolument pas sûr de ça. On ne sait pas s'il est vraiment formé ou pas. On peut avoir des diplômés, mais qui ne peuvent pas intégrer une entreprise parce qu'ils n'ont pas la philosophie ou ils ont parfois des réactions qui sont... je dirais que l'employeur ne comprend pas, quoi. De nos jours, ben, si par exemple, 18h02, il y a encore un dernier papier à déposer dans la boîte aux lettres, l'employeur comprend pas que à 18h pile, on lui dit je peux plus déposer. Et c'est, je dirais très franchement, la vie de la société a évolué, quoi. Malheureusement, parfois, on trouve encore des sorties de d'école qui sont encore dans cette problématique-là. C'est plus vrai du tout, quoi. Donc ça, c'est quand même un problème qui... Alors, où est-ce qu'il se situe au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que dans les formations? Mais il est réel, quoi. Hein. On ne peut pas se fier à un diplôme ou à quelqu'un qui arrive, un jeune. Il faut vraiment tester, quoi.
Les entreprises sont aussi face à un gros problème démographique à l'heure d'aujourd'hui. C'est que entre 2006 et 2012, avec un... On est au cœur du pic, là, de la pyramide des âges, des départs des fameux baby boomers qui partent en retraite. Et puis on se rend compte que la relève, eh ben, remplacer quelqu'un qui a 55 ou 60 ans, qui a un savoir-faire, une maîtrise de son métier par un petit jeune qualifié peut-être, mais c'est pas pareil. Donc il faut maintenir, continuer à maintenir les seniors en emploi parce que structurellement on en a besoin. Parce que stratégiquement, on en a besoin.
Il y a un organisme qui avait fait une recherche, je ne me rappelle plus du nom, mais ça va me revenir, qui avait fait une statistique sur l'emploi des seniors dans les entreprises. Et donc, c'est avéré que le questionnaire, les différents questionnaires qui avaient été distribués, ont été impeccablement remplis, et en fait, que les entreprises n'avaient aucun problème avec les quinquas. Dernière question, combien de quinquas avez-vous dans l'entreprise? Très souvent, c'était aucun. Manifestement, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je dirais, ça va même beaucoup plus loin. Je dirais aujourd'hui, ne pas avoir de quinca dans une entreprise vous prive de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut pour accueillir un jeune dans une entreprise? Il faut un quinca. Il a l'expérience, il a emmagasiné énormément de connaissances, il a la culture de l'entreprise, parce qu'il a l'habitude de travailler là-dedans, il sait comment ça fonctionne, et il a suffisamment de métiers pour faire à la fois son travail et s'occuper du jeune qui rentre. C'est indispensable. Aujourd'hui, on va finir par détruire le ciment qui colle les briques des différentes entreprises et elles vont finir par devenir un produit qu'on achète et qu'on vend comme n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus d'âme dans l'entreprise. Et l'âme vient de la continuité que les quinquas maintiennent dans l'entreprise.
Vous savez comment ça marche dans la société, voilà, quelqu'un qui est mis à la porte à 40-50 ans prend une vraie gifle. Hein. Les associations telles que Quinca sont aussi là pour les soutenir psychologiquement, pour essayer de... parce que j'en ai rencontré, moi, qui me disaient à 45 ans, on est bon à mettre à la poubelle. Non, lâche. Je crois que le discours est en train de changer dans les entreprises, honnêtement. Et je pense pas qu'une loi... On a une affreuse manie en France, c'est de faire des lois pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut aussi laisser le marché se réguler, le marché de l'emploi se réguler par lui-même. Et ce que je vous disais sur cette prise de conscience des entreprises, de sauvegarder l'emploi des seniors et d'avoir de nouveau une politique de recrutement, Manpower a mis toute une nouvelle politique de recrutement en place qui n'est pas seulement un gimmick marketing RH ou politique, mais qui consiste effectivement à réintégrer dans les équipes qui sont souvent... qui ont besoin de seniors. Voilà, on a l'image du père ou de la mère est importante. On a besoin de ces référents-là et les entreprises commencent à s'en rendre compte. Alors bien sûr, ce sont des choses qui se mettent lentement en place. Il faut aussi savoir que du côté des seniors qui, voilà, à 45 ou 50 ans, avaient un niveau de salaire peut-être parfois important. Souvent, un recruteur a une approche très pragmatique. Il se dit, je peux engager plutôt un ou deux jeunes diplômés, plutôt deux d'ailleurs jeunes diplômés pour le prix d'un senior. C'est pas forcément un bon calcul. L'idée c'est peut-être de recruter effectivement le senior avec simplement un jeune diplômé ou un jeune, de façon à ce que le pont dont je parlais avant se crée. Donc voilà, il y a une reprise en main à la fois de ceux qui sont sur le marché du travail, des quinquas qui sont sur le marché du travail, qui ont besoin de qu'on leur dise qu'on les aime, qu'on a besoin d'eux. Je pense que c'est important, je pense que les entreprises sont en train de le mettre en place. Et en même temps, à ces personnes-là, à ces compétences-là, de se dire bon, bah, j'étais à 75 KE, peut-être qu'en poste à 50 KE, ça peut le faire aussi. C'est une façon aussi, il y a des postures, je pense qu'il faut éliminer de part et d'autre, de façon à ce que le trait d'union se refasse d'une façon convenable.
J'ai été contacté par un recruteur suite à un envoi de CV la semaine dernière. On m'a demandé quelles sont vos prétentions. Il dit, je n'en ai pas. Je dirais aujourd'hui, si une société définit un poste, ce poste a pour elle une valeur. Et j'accepte sans discuter la valeur. Je dirais, ce n'est pas une question d'argent. Je dirais, on a fait une bonne partie de notre carrière. Nous, simplement, on veut qu'on soit estimé à notre juste valeur et donc qu'on soit rétribué en fonction de ça et qu'on ne soit pas rejeté d'office. Je dirais, on a droit de travailler comme tous les autres. La période aujourd'hui est très mauvaise parce que je dirais, en plus, disons, du manque d'intérêt pour les quinquas et le problème économique, je dirais, ça ne va pas décanter dans les prochains 12 mois. Je dirais, c'est vrai qu'on a les soutiens, on a les indemnités de la CEDIC, mais bon, je dirais, c'est pas une vie. Hein. Je dirais, bon, il y a l'image aussi qu'on se fait de nous. Je dirais, au bout d'un certain temps, elle se détériore. Je dirais, on est licencié. Au début, on est euphorique. On dit, on va retrouver, on a de l'expérience. On a beaucoup de choses à proposer à l'entreprise. Au bout de quelques mois, ça commence à s'effilocher. Et puis, on commence à se poser des questions sur soi-même. C'est un peu difficile à encaisser par rapport à notre image, par rapport à notre famille, par rapport aux enfants, etc. Je dirais, on est presque pré-retraité, alors qu'on n'est pas pré-retraité du tout. Je dis, moi, j'ai 53 ans, je ne vois pas pourquoi je ne travaillerai pas jusqu'à 70. Pourquoi pas? J'en suis arrivé aujourd'hui à chercher, non pas à grandir le panel, mais je dirais à grandir le territoire. Je dirais de l'Alsace, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, j'en suis arrivé au Grand Est. Je suis même disposé à partir le dimanche soir et rentrer le vendredi soir pour rejoindre ma famille. Ce n'est pas un problème. Je dirais aujourd'hui, on prend ce qu'on veut bien nous accorder.
Au niveau des rémunérations, alors on peut constater quand même que d'une manière générale, les rémunérations sont quand même tirées vers le bas. Voilà, surtout dans les grands groupes. Après, c'est vrai que pour certains postes, en fait, ils proposent quand même des rémunérations attrayantes pour des jeunes hein, qui commencent. C'est surtout ça le fond du problème, c'est-à-dire qu'une entreprise en fait de nos jours ne va pas prendre de risques, c'est-à-dire ne va pas rémunérer excessivement finalement des jeunes sans expérience qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Alors des chiffres, pour être clair, par exemple chez Lidl, en tant que chef de réseau, on peut commencer à environ 30 000 euros par an, brut, donc ce qui fait à peu près 2300 euros par mois, net, hein. Donc ce qui est pas mal, maintenant c'est vrai qu'à côté de ça, ils demandent beaucoup de travail en termes d'horaire, en termes d'implication dans la société. C'est-à-dire que j'ai un ami précisément qui travaille pour Lidl, il travaille environ, je dirais, 55 heures par semaine. Voilà, donc c'est un gros volume horaire. Par contre, la rémunération est attrayante au niveau du salaire fixe, mais aussi de la voiture de fonction. Parce que de nos jours, en fait, avec le poids donc du pétrole cher, etc., etc., ça ne devient pas négligeable.
Je cherche, on va dire, depuis un an, mais je suis partie en Angleterre pour améliorer mon anglais. Donc, on va dire que finalement, je cherche depuis seulement un mois et demi. Je connaissais la réalité. Après, je pensais quand même que... qu'on a plus de chances que ça en tant que jeune, par un dynamisme, un profil, une personnalité. En fait, la réalité est autre. On est beaucoup filtré. Les CV sont très filtrés à l'entrée. Donc, si on n'a pas d'expérience, justement, c'est très difficile d'atteindre même les RH pour avoir juste qu'on étudie le CV.
Bon, je dirais très franchement, il est vrai aussi qu'il doit y avoir une sélection. Et c'est là la complication. On a une grosse masse de demandes qui arrivent et puis ou de personnes qui effectivement souhaitent trouver un emploi, et il faut faire une sélection terrible pour ne pas se tromper et ne pas décevoir, quoi. Alors c'est vrai que c'est parfois frustrant, mais c'est la réalité, quoi. En tant qu'employeur, moi j'en vois un certain nombre, je vois des piles et des piles et des piles de CV, quoi. Et pour l'employeur, c'est très compliqué pour faire la sélection. Donc il y a une première sélection dans les CV, déjà une première approche. Ensuite, il y a les entretiens, etc. Je crois qu'il faut passer par là, parce que sinon, tout le monde perd son temps, quoi.
On n'utilise pas de test, hein. Si c'est de graphologie ou autre, ça ne nous intéresse pas. On l'a déjà évoqué, on y a déjà réfléchi. On est vraiment dans l'échange, hein. On nous a soumis, on nous a suggéré, on nous a demandé ce qu'on souhaitait et on a répondu en tous les cas pour la région Est que tel que dans le fonctionnement qui est le nôtre actuellement, ça nous allait très bien et que nos résultats nous parlaient comme ça et que les candidats leur parlent parce que derrière, il y a le retour du candidat.
Bah, des dérives, il y en a toujours peut-être quelques-unes, mais enfin dans la grande majorité, c'est pas le cas. Du moins, j'ai pas, à ma connaissance, c'est pas le cas. Il est évident que des méthodes, il faut en avoir. On s'aperçoit que c'est très compliqué quand même l'embauche. C'est certainement une des fonctions les plus compliquées, les plus difficiles. Parce qu'on risque effectivement à la fois au niveau de l'emploi, pour le salarié d'insatisfaire, puisque forcément il y aura un rejet ou du moins une non-prolongation de période d'essai, mais aussi pour l'employeur, parce que forcément... Il va investir sur quelqu'un qui ne va pas pouvoir garder parce que ça colle pas au niveau de la formation, etc. Donc je crois que c'est parfois très frustrant, c'est un métier difficile.
Il n'y a pas que le candidat qu'on recrute, hein, qui fait un retour. Il y a celui qu'on va recroiser 4 mois plus tard au détour d'un forum et qui va venir nous dire bonjour en disant « Mademoiselle Cheng, Mademoiselle Ritondo, comment vous allez ?» Et là, on sait que l'échange, il a été bon.
Oui, c'est un peu vrai dans les métiers qui sont un peu en déficit. C'est un peu. Alors, vous parlez d'informatique, oui, bien sûr, certainement, peut-être de moins en moins quand même, parce que le secteur de l'informatique a même relativement pourvu maintenant. On trouve quand même pas mal de monde. Mais c'est par exemple, un exemple qui reste tout à fait effectif encore, c'est par exemple dans les soins infirmiers, par exemple, les infirmières. C'est vrai qu'il faut. Il faut amener le petit plus, c'est-à-dire mettre une voiture de service, par exemple, dire vous avez un 13e mois, vous avez un intéressement, vous avez. Si vous pouvez venir chez nous, ce serait bien, quoi. C'est vrai, dans un certain nombre de métiers, c'est vrai. Alors c'est assez ahurissant quand même, parce que ça veut dire simplement qu'on ne forme pas les gens qu'on a besoin, quoi. Ce qui est un peu dommage, quoi. Alors il y a tous les problématiques ensuite de gestion financière. Quand on parle évidemment d'infirmière, on dit sécurité sociale. Et donc la sécurité sociale, comment elle se bat pour ne pas dépenser trop ? Eh bien, elle limite les formations. C'est-à-dire un numerus clausus qui est effectivement limite. Donc limite le personnel. Et donc le personnel a beaucoup de facilité à trouver un emploi. Le métier d'infirmière, c'est une formation de 3 ans. C'est vrai que les libéraux, les infirmières libérales, font peut-être 2 fois 35 heures par semaine. C'est certainement vrai. Mais gagnent aussi en proportion. Parce que vous savez que dans ce métier, on est payé à l'acte. Donc plus on fait d'actes, plus on est payé. Et ça peut faire des sommes quand même intéressantes. Voilà. Mais ça, c'est pour le secteur, effectivement, ce que je vous disais, pour les libéraux. Ce qui n'est pas le cas, parce que vous avez dans le secteur hospitalier, par exemple, ou en centre de soins infirmiers, où il y a des infirmiers qui sont des salariés. C'est vrai qu'il y a application de la convention collective, 35 heures par semaine, etc., avec un salaire conventionnel, mais ils font 35 heures. Donc, vous voyez, libéral qui fait 70 heures... qui gagnent quand même bien leur vie, mais ils font 70 heures, il faut le faire, hein. Et puis vous avez ensuite un secteur hospitalier où il y a 35 heures, et c'est vrai aussi que les salaires ne sont peut-être pas forcément mirobolants, quoi. Mais c'est quand même plus, comment vous dire, c'est pas cool, mais c'est vrai que c'est plus organisé, quoi.
Alors moi, de formation, j'ai fait une école mulhousienne qui s'appelle l'ISTA, l'Institut supérieur textile d'Alsace. Donc je suis chef de produit textile. Donc je recherche avant tout dans le secteur textile, au sens le plus large possible. J'ai une expérience dans la grande distribution, donc c'est un secteur que je connais bien. J'ai mené beaucoup de projets personnels, notamment dans l'événementiel, dans la communication. J'ai fait des colloques, des conférences. Donc là aussi, j'ai de l'expérience à valoriser. Et c'est vrai qu'actuellement, je chercherais un poste en plus dans le marketing, puisque c'est ma formation, chef de produit, et mes prétentions, assistante, chef de produit junior ou assistante marketing. Alors, il faut savoir que les salaires, ça reste encore très tabou, hein, parce qu'on ne nous dit pas vraiment ce qu'on vaut. Donc, c'est quelque chose qu'on doit plus ou moins deviner.
Voilà. Selon expérience.
Voilà. C'est quelque chose qu'on doit plus ou moins deviner ou gratter. Maintenant, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts, comme moi, à commencer en bas de l'échelle, alors qu'on pourrait viser plus haut. Tout dépend du profil, des responsabilités. Si je suis à Paris, si je dois trouver un logement, si je reste en Alsace, si après, moi, je suis prête à m'investir, à faire plein d'heures, pas forcément 35, avoir bonne responsabilité. Après, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il faut aussi que le salaire suive, ce qui est cohérent. Si l'entreprise gagne, le jeune ou le salarié gagne aussi. Et puis après... Moi, personnellement, j'ai pas de prétention salariale, donc on parle, on discute, une proposition, le poste correspond. On me dit, ben, pour l'instant, tu rentres à ça, mais on verra dans un an où t'en es. Je trouve ça totalement honnête hein, comme proposition. Hein.
Oui, elle a une bonne approche. Simplement, il faut pas non plus se dévaloriser. Chaque poste a une grille de salaire, donc il faut connaître ses capacités de rémunération. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop gourmand au début. Moi, j'ai recruté pas mal de gens qui réclamaient des avantages, voiture, téléphone portable, je ne sais quoi. Alors que maintenant, dans les entreprises, même je parle des grandes entreprises, les gens n'ont plus de bureau fixe avec une secrétaire. Non, on n'a plus toutes ces choses-là. Maintenant, c'est un peu la précarité. C'est le monde dans lequel nous vivons qui veut ça, c'est-à-dire la précarité de l'emploi, la précarité des postes. Même quand vous êtes ingénieur dans une grosse entreprise comme IBM, vous n'avez pas de bureau fixe, même si vous avez 10 ans d'expérience. Vous avez si vous voulez un bureau, vous dites que vous venez au siège à tel moment et on vous attribue un bureau. Mais ce n'est pas votre bureau, c'est un bureau qui appartient à tout le monde. Donc, c'est vrai que ça permet aux gens de ne pas s'attacher et de pouvoir éventuellement être mobile, se déplacer. Et dans la salaire, c'est pareil. Les salaires sont de plus en plus extensibles. On a de plus en plus de gens qui demandent tout simplement de faire des efforts, de travailler à la commission. Hein. C'est-à-dire, vous avez des résultats, on vous paye. Si vous n'avez pas de résultats, vous gagnez zéro. Et je trouve que c'est un peu facile pour certains employeurs d'utiliser cette méthode-là parce que il y a des gens qui ne s'en sortent pas facilement.
C'est vrai qu'on est souvent rémunéré au SMIC. Aujourd'hui, ce n'est pas évident d'avoir un loyer à payer, d'avoir d'autres frais comme le carburant ou des frais annexes.
Le problème vient tout spécialement, on le répète, mais je crois que c'est uniquement les charges que ça suppose. Quoi. Très franchement, un employeur qui embauche quelqu'un qui fonctionne bien, qui rend tout à fait les services voulus, qui fait progresser l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi voulez-vous qu'un entrepreneur ou une entreprise ne lui donne pas le salaire adéquat ? Et à mon avis, c'est ultra facile de négocier un salaire correct si effectivement on augmente le salaire, mais on sait qu'en augmentant le salaire, ça double le salaire à cause des charges derrière. Donc évidemment, c'est un frein, quoi. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais l'emploi, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire on recule devant... à prendre des emplois tout simplement parce qu'on sait ou à augmenter les salaires tout simplement parce qu'on sait que derrière ça sera pas 1 euro, ça sera 1,5, 1, parfois 2 quoi. Et je pense que ça c'est un réel frein quoi. Alors est-ce qu'il y aurait pas des plafonds à mettre ou etc. Mais moi je suis partisan de dire que lorsque un employé remplit bien ses fonctions etc. il lui est loisible de négocier son salaire. Je suis persuadé qu'il peut négocier son salaire et que l'employeur est à même de lui offrir un peu plus de salaire, c'est évident.
En fait, c'est vrai que souvent, Luxembourg a cet aspect un peu Eldorado en termes de salaire. Alors, c'est vrai qu'on peut gagner plus, surtout pour un jeune diplômé, peut-être même plus pour un jeune diplômé Bac plus 2, Bac plus 3. Il va pouvoir gagner plus que ce qu'il pourrait toucher en France. Maintenant, il faut quand même avoir de bonnes compétences linguistiques pour travailler au Luxembourg. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les personnes qui vont habiter au Luxembourg, en tout cas, le coût des loyers est supérieur. Le reste de la vie, c'est le même prix. Mais que, il faut... disons qu'il y a quand même une compensation et l'un dans l'autre, on peut gagner plus, mais il ne faut pas croire que c'est le pays rêvé. Et puis, c'est des métiers aussi avec des contraintes. Hein. On n'est pas là, on est là pour donner une vraie réalité de nos métiers. C'est des métiers où on demande une grande flexibilité horaire aussi, et d'où aussi ces salaires qui peuvent être plus élevés.
On peut faire, faire passer votre CV chez nos collègues en Belgique ou à Paris. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voulez rester dans la région.
Oui, je veux rester dans la région Alsace. J'ai acheté et je veux rester.
Oui, toujours faire passer votre CV.
Oui, ouais, s'il y a une entreprise.
Le fait aussi qu'il y ait beaucoup de personnes sur le marché de l'emploi favorise les employeurs. Comme ils ont 50, 60 personnes qui se proposent pour un même poste, quand ce n'est pas 200, 300, 400, évidemment, c'est toujours le moins de 10 ans qui va obtenir le poste. C'est-à-dire que la personne qui va accepter de travailler un nombre d'heures incalculable avec un salaire tout à fait minable, sans aucun avantage en nature, va être pris plutôt que celui qui va avoir une simple prétention honnête avec une rémunération tout à fait décente. Malheureusement, c'est ça. Et en plus, comme on veut déréguler le marché du travail d'une manière complète, en ouvrant les frontières à tout le monde et en tirant les salaires vers le bas, c'est un gros souci, puisque les gens qui ont des diplômes, qui ont une compétence, ne peuvent plus être en concurrence avec des gens qui n'en ont pas, mais qui vont être beaucoup moins regardants par rapport au salaire et autre chose. Donc ça, c'est tirer vers les salaires vers le bas, et c'est le patronat qui tire les ficelles et qui est très content. Plus il y a de chômage, plus ils sont heureux. Ça, c'est sûr et certain.
Bah, moi, je rejoins tout à fait Bertrand dans le sens où, effectivement, c'est juste un système d'offres et de demandes. Tant qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi et peu d'offres, et parallèlement à ça, moi, ce que je peux voir juste de ma génération et de la génération de mes parents, de mes grands-parents, avant le bac, c'était un repère. Maintenant, c'est bac plus 2, bac plus 4, le repère. Donc, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de diplômés. Donc, finalement, ce fossé entre des gens qui sont, on va dire, diplômés sur diplômés et des gens qui ont plutôt des compétences techniques ou qui ont choisi des filières manuelles, eh ben, ce fossé, vraiment, est de plus en plus faible. Donc, ce qui pose aussi ce problème de prétention salariale et, finalement, de salaire.
Un phénomène de société où il y a un nivellement effectivement des salaires qui est pas bon parce que c'est pas motivant quoi, hein, c'est pas motivant. Mais dans l'état actuel des choses, c'est le cas. Alors est-ce qu'on se retrouve comme en 1968 je sais pas, mais enfin c'était quand même un peu un phénomène de ce genre-là. Hein, je veux pas rappeler dans ces époques, mais on a vu des bouleversements de salaires etc. Extraordinaires parce qu'effectivement on était arrivé à un seuil très difficile. Mais de nos jours, c'est encore plus compliqué avec la mondialisation, quoi. Qu'est-ce que vous voulez augmenter les salaires si vous avez le petit Chinois qui fait pour 10 fois moins, quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut développer les emplois de proximité, quoi, qui ne peuvent pas s'exporter ailleurs, quoi.
Responsable de magasin, c'est lui qui va sortir les palettes, qui va en fin de compte mettre en rayon, il va faire la caisse, il va nettoyer par terre, il va faire l'ouverture, il va faire les litiges, c'est un homme à tout faire. Donc ce sont des gens qui sont corvéables à merci, mais ce sont des gens, comme ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir un salaire, une fiche de paye, ils sont obligés de faire un travail qu'on pourrait assimiler pratiquement un travail d'esclave. C'est-à-dire que ils sont à la merci de l'employeur qui vient leur faire des remarques parce que les rayons ne sont pas bien, bien comme il faut, le facing n'est pas, la rentabilité n'est pas bonne, et donc il y a toujours des problèmes. Donc on presse le citron au maximum et les gens sont, quand ils n'ont plus de ressources, on les jette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emploi jetable. On appelait des emplois Kleenex, et c'est vraiment la tendance actuelle. C'est-à-dire on presse. Quand les gens émettent une remarque ou veulent une augmentation ou une meilleure condition de travail ou quelque chose, on les jette. Voilà, le résultat, c'est ça. C'est la précarisation la précarisation et la fragilité de l'emploi qui est vraiment la, le mot d'ordre actuel. Ils ne veulent pas prendre de risques, c'est-à-dire qu'ils ont fait un état de ce qu'ils veulent réellement. Ils veulent simplement, ils ont listé les compétences, les expériences, ce qu'ils veulent réellement comme diplôme, et ils ne veulent pas sortir de leur cadre. Alors on se demande après pourquoi ils ne trouvent pas le mouton à cinq pattes, parce que le mouton à cinq pattes n'existe pas. Donc il faut parfois un petit peu revoir à la baisse ou élargir un peu son panel pour en effet retrouver des gens et non pas vouloir les gens qui ont 10 ans d'expérience dans la tuyauterie industrielle de type ABCD et non pas GDF, parce que c'est vrai qu'on n'en sort pas. Donc élargissons les pouvoirs, ne demandant pas des choses impossibles à trouver avec des gens qui ont des diplômes, 5 ans d'expérience professionnelle, moins de 30 ans et 5 ans d'expérience. Parfois, il y a des choses qui sont aberrantes dans les demandes. Donc, il faut laisser sa chance à tous les gens qui veulent vous rencontrer. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer et de dire ce qu'elles ont envie de réellement de faire.
Donc, je suis à la recherche d'un emploi dans le marketing, donc assistante chef de produit, assistante marketing. Et donc, j'ai un master européen de management et stratégie d'entreprise. Donc, je peux travailler aussi bien dans le marketing que dans la communication, dans le management, donc tout ce qui est ressources humaines, dans les achats. Donc, j'ai une formation très généraliste. Alors, moi, j'ai mon master, je l'ai fait par alternance. Donc, pendant 2 ans, j'étais dans une entreprise où j'ai eu des missions qui m'ont été confiées. Et donc là, mon contrat s'est fini le 31 juillet. Donc depuis le 1er août, je suis à la recherche d'un travail. Donc le marché, très morose, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Il m'arrive d'aller chercher des offres sur Internet et donc le matin. Et à partir de 14h, l'offre n'est déjà plus disponible parce que soit il y a eu un recrutement en interne pour diminution de coûts, ou alors le poste est supprimé par rapport à tout ce qui se passe en France en ce moment et dans le monde. Passé un entretien pour responsable marketing junior et donc ce qu'on m'a proposé au mieux c'était 1 200 € net avec une voiture de fonction et un téléphone. Donc bien sûr le téléphone c'était pour être jointe à tout moment et on m'a bien demandé de faire des heures pas possibles, c'est-à-dire de commencer à partir de 8h et que je pouvais travailler jusqu'à 22h s'il y avait besoin de moi.
On laisse ça.
Ok, ça va. Merci beaucoup.
Ça, si vous pouvez le transmettre
oui.
À votre
mère. Oui, bien sûr, oui. Et on ne sait jamais quel faire des commerciaux dans la région.
Et comme dit, je fais une formation en ce moment, et donc du 3-11 au 30-11, je suis à la recherche éventuellement d'un stage en entreprise.
Ok, c'est ça.
Hein, et il serait même financé par la CEDIC. Donc c'est un point. Mais dans le but de trouver un poste en CDI. Quoi. Voilà.
Ça va.
Merci beaucoup. Allez, au revoir.
Au revoir.
Il faut que j'en trouve. Il faut. Enfin, je suis là pour ça, quoi. Et puis j'ai mis mon meilleur tailleur aujourd'hui, donc voilà. Bien sûr, quand c'est la gente masculine, c'est vrai qu'il y a comme une séduction qui s'installe. Donc on essaie de faire jouer un peu tous ses atouts, en tout bien tout honneur bien sûr, et pas trop en faire non plus, parce que sinon après on passe complètement à côté. Mais c'est vrai qu'il y a un lien direct avec la personne, et c'est vrai qu'après il faut discuter avec la personne directement, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus parlant qu'un CV ou qu'une photo. Tout simplement.
En matière de RH, de ressources humaines, on n'est jamais arrivé au bout. Parce qu'il y a à chaque fois des nouveaux services, il y a à chaque fois des nouveaux acteurs qui proposent Movie Job à développer un certain nombre d'outils que nos concurrents ont déjà. La presse, désolé de dire ça à un journaliste, mais quand même en pleine déconfiture. Et les nouvelles générations, même jusqu'au Quadra, globalement, lisent plus tellement la presse. Hein. On voit les problèmes que la presse nationale et la presse quotidienne régionale ont. Donc la référence d'une offre d'emploi le samedi matin dans mon journal est en train de voler en éclats pour des raisons d'efficacité, hein, et surtout des raisons de coût. Une offre d'emploi dans un journal, c'est souvent plusieurs milliers d'euros. Avec plusieurs milliers d'euros, on peut acheter un accès internet pendant un an sur un site d'offre d'emploi comme MovieJob par exemple. Donc il y a cette base-là, la dématérialisation, on va dire, des offres d'emploi qui a été initiée dans les années 2000, qui se confirme. Après, il y a des avancées technologiques importantes ou techniques. Il y a maintenant les CV à la fois les CV en ligne, vidéo des candidats, il y a les présentations vidéo aussi des entreprises sur ces sites-là, il y a des systèmes de chat qui se mettent en place, il y a eu un fort développement des job fairs, hein, des salons de recrutement qui n'existaient pas vraiment il y a quelques années, qui commencent à bien prendre avec des sessions de speed recruiting. Il y a un marketing RH de la part des entreprises où on est clairement passé de l'ère du chef du personnel qu'on a peut-être encore tous en tête à un directeur des ressources humaines. Effectivement, il y a une partie de communication aussi qui intervient, mais je pense que la façon dont les entreprises appréhendent les gens aujourd'hui n'a rien à voir avec ceux d'il y a 20 ans, parce que évidemment les marchés n'étaient pas les mêmes, mais les profils n'étaient pas les mêmes, les niveaux d'éducation et d'information n'étaient pas les mêmes. Donc le candidat maintenant, encore à l'heure d'aujourd'hui, est chassé par les entreprises. C'est de plus en plus les entreprises qui font les démarches d'aller vers. Il y a des relations avec les écoles qui se créent, pas seulement avec les écoles de commerce et d'ingénieurs, avec les universités qui commencent aussi. Bon, on a vu qu'il y a quelques temps, l'entreprise et l'université, en tout cas les syndicats, n'avaient pas l'air d'apprécier. Maintenant, tous les nouveaux présidents d'université créent clairement des ponts évidents entre les entreprises et les formations. Formation qui, in fine, doit aboutir sur un job. Donc, que l'entreprise ne puisse pas arriver sur un lieu de formation, c'est pas normal. La NPE, la CEDIC, la fusion des deux, leur participation au salon comme on fait aujourd'hui, mais également leurs initiatives propres, participent aussi à ça. Hein. La NPE, c'est bien dépoussiéré et commence à faire des choses très, très intéressantes avec des notions de résultats. Pas seulement de moyens, mais de résultats, des objectifs concrets. Voilà, alors le système n'est pas parfait, évidemment. Le système n'est jamais parfait, mais je pense qu'on progresse au fur et à mesure, on progresse bien, de façon à ce que la demande et l'offre se rencontrent le plus naturellement et le plus facilement possible.
Les DRH devraient peut-être plutôt prendre du temps à recruter que de passer par des agences qui... où ça leur coûte beaucoup plus cher et qu'au final, à la fin, on ne rencontre même pas le DRH de l'entreprise. Et que des fois, ça c'est vraiment feeling, ça peut être des points communs qu'on a, ce genre de choses. Et là, c'est vrai que moi, je passe que par des cabinets de recrutement et je n'arrive pas à atteindre les DRH. Donc je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a des DRH dans des entreprises, sachant qu'on ne les voit jamais. J'en ai pas vu. Il n'y a que des recruteurs, comme dit. Moi, j'ai rencontré que des recruteurs. Pourtant, j'ai fait presque tous les stands pour échanger un peu. Et non, rien du tout.
Oh, conclusion, l'emploi est dans une phase quand même un peu difficile. Je pense qu'il sera encore un peu plus difficile en 2009. Donc, il faut vraiment trouver tous les moyens de communication, mettre tous les atouts de notre côté et trouver tous les bons arguments pour les employeurs et les salariés pour se valoriser. Mais je crois que la meilleure façon, c'est d'avoir un employeur, bon, certes, dynamique, mais aussi un salarié qui est passionné, quoi. Si vous avez un salarié passionné, il arrivera à faire passer sa passion à l'employeur aussi, et ça fonctionnera bien, et peut-être que ça pourra aussi augmenter les salaires, et non seulement augmenter les salaires, mais surtout rendre satisfaction effectivement à l'utilisateur, à l'acheteur qui achète le produit, qui achète le service, etc. Je crois que c'est un tout. La bonne équation, c'est employeur-salarié, une bonne équipe pour un bon produit et une satisfaction de clientèle.
Remerciements à Gilles Risser, organisateur du salon Movie Job, Pascal Mumbach, président national de la Fédération française du bénévolat associatif et chef d'entreprise, Francesca Ritondo et Lily Chang, chargée de recrutement à la société Sogeti, Major Pascal Guiberto de la Gendarmerie nationale, Gaël Tascon, chargée de recrutement chez Fastnet Luxembourg, ainsi qu'à toutes les personnes à la recherche d'un emploi qui ont accepté de témoigner.